carnet de campagne. Bonjour, les carnets sont dans le Var et décidément les créations de parcs naturels régionaux vont plus vite que prévu. Alors que nous évoquerons la semaine prochaine la création en cours d'un parc des Garrigues dans le Gard, c'est celui de la Sainte-Baume qui vient de voir le jour. C'est le 52e parc d'une fédération qui vient de passer ses 50 ans d'existence. La région Sud, alias PACA, enregistre ainsi son 8e parc naturel régional. Il n'aura fallu que 5 ans de co-construction, ce qui est une durée de gestation plutôt courte, hein, avec les élus, les services de l'État, les partenaires techniques et les acteurs socio-économiques pour que ce 52e parc prenne assise sur 26 communes du Var et des Bouches-du-Rhône. Ce PNR de la Sainte-Baume devient ainsi l'animateur en titre des sites Natura 2000 de ce massif. Il s'étend sur 108 000 hectares autour d'un bassin de 180 000 habitants. PNR, tradeunionsainte-baume.fr pour le site. Dans une même éthique de valorisation des espaces naturels, un groupement de petits producteurs, de maraîchers et de transformateurs s'est engagé dans une charte de défense des terres de culture pour freiner la course au bétonnage qui atteint les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Ce collectif, baptisé Terre Bleue, a été fondé par Alain Granouillac, premier invité, et puis une expérience de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui a pris une étonnante tournure avec l'association Le Vidéographe, dont le siège est à Barjols, en mettant sur pied une série web télé dans laquelle les habitants tiennent tous les postes. Et l'explication tout à l'heure avec Alexandra Périgaud, seconde invitée de ces carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Hélène Granouillac, bonjour.
Bonjour.
Hélène, vous êtes fondatrice responsable d'un doux tank. Le doux tank, au contraire du think tank qui réfléchit, le doux agit. Et c'est un doux tank collaboratif citoyen indépendant qui s'appelle Terre Bleue. Or, qui répond d'abord, c'est comme ça qu'il faut le dire, à une charte nationale terre nourricière.
Oui, disons qu'on existe depuis 1999, mais la charte fait partie d'un long processus, on va dire, d'action et de réflexion. On est parti d'un constat. Ça fait bien longtemps que le genre humain est agriculteur et qu'il est paysan.
Ouais.
Et on voit donc ces métiers qui nous nourrissent menacés, ce qui est assez inédit. Nous sommes les témoins d'une prise de conscience, enfin nous, c'est vous, c'est tout le monde, hein. Et conscience donc d'une priorité alimentaire dans un contexte démographique qui est lui aussi inédit. Et donc la priorité alimentaire, elle est aussi parallèlement liée au maintien d'aliments qui ont des propriétés médicalement vertueuses, on peut dire, mais pour lesquelles il faut une production qui est quand même assez onéreuse.
Ouais. Hélène, il faut une production, mais il faut surtout des espaces de production, et c'est bien là où vous intervenez.
Oui, disons qu'il y a un dilemme, parce que la production, bon, qu'elle soit, nous, on s'occupe de production alimentaire, même s'il y a d'autres espaces qui sont menacés, mais l'état agricole, c'est quand même aussi assez central. Et c'est vrai que l'alimentaire ouvre un débat sur la hiérarchie des propriétés. Il faut se nourrir, c'est une nécessité vitale, et quitte à le faire, autant le faire bien. Et il faut aussi soigner, prendre soin de son corps avec d'autres, effectivement, productions. Mais on observe aussi la tendance végétarienne qui pourrait croître. Et donc, fort de ce constat, on s'aperçoit que les terres agricoles doivent être protégées pour répondre à cette demande.
Alors, les protéger, les préserver des espaces, ça veut dire faire front contre des permis de construire, en particulier dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Alors, ils sont nombreux parce qu'il y a une pression immobilière, il y a un tourisme de masse. Premier interlocuteur, les élus, mais est-ce que les élus vous entendent ?
Alors, non. On les a contactés, puisqu'en fait, nous, on travaille sur l'agroécologie urbaine depuis pas mal d'années. Le permis de planter qu'on a lancé il y a un an et demi, qui est un véritable défi ici, hein, compte tenu du prix du foncier et de la topographie. Donc, c'est une évolution assez logique. On en est venu à des demandes qui étaient antérieures à nous, évidemment, puisqu'il y a plein d'associations qui se mobilisent depuis de nombreuses années et certaines qui remportent des victoires. Donc, c'est assez héroïque, il faut le signaler. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi la pseudo Éco-Vallée, la plaine du Var.
Oui.
Contre laquelle se bat un collectif d'associations auquel on appartient, et avec Cap 06 qui est donc la locomotive de cette opposition, parce que la terre est fertile, parce qu'on a de l'eau potable, parce qu'on a un ensoleillement, enfin des conditions rêvées. Et c'est vrai que c'est un phénomène parmi tant d'autres. Il y en a effectivement beaucoup entre la montagne, la zone urbanisée et la mer. Il faut faire avec.
Ouais. Hélène, il suffit peut-être que quelques élus s'engagent avec vous pour que les autres suivent, non ?
Bien, c'est un peu l'espoir qu'on a envie de caresser depuis quelque temps. d'autant que l'actualité, la tendance tendrait à dire qu'effectivement on se dirige vers cette prise de conscience et cette urgence à plutôt laisser la place au bon sens et non plus à construire des temples de la misère que sont ces immenses centres commerciaux qui n'arrêtent pas de pousser de terre et qui jalonnent toute la Côte d'Azur.
Quelles sont les prochaines actions Terre Bleue ?
Alors, la charte a été diffusée auprès d'un nombre assez conséquent de petits producteurs, des agriculteurs, des maraîchers. Elle a reçu un plébiscite assez étonnant puisqu'on a eu quasiment 800 réponses en quelques jours de ces personnes. Elle a touché également les transformateurs, ceux sans qui tous ces bons produits n'arriveraient pas jusque dans nos boutiques d'abord et ensuite dans nos assiettes. Donc la seconde phase, c'est de frapper à la porte de personnes qui sont censées avoir quand même favorisé un système depuis pas mal d'années, enfin je parle d'ici, qui sont encore, on va dire, en activité et auxquels on humblement on demande des comptes en tant que citoyen, à savoir est-ce qu'on peut établir une cartographie de ces terres à préserver tant qu'il en est temps.
Bien
c'est
sûr.
Pas quand le béton aura coulé qu'on pourra agir, c'est maintenant.
Pour éviter que le P de PACA devienne synonyme de poubelle.
Par exemple, ça c'est vous qui le dites.
Oui.
Je vous en laisse la responsabilité. Mais on s'associe effectivement à ces associations qui sont toujours très actives, très vigilantes pour surveiller ce qu'on met, ce qu'on peut verser comme poison dans la terre, quand on sait que, in fine, on le récupérera soit dans l'air, soit dans nos assiettes.
Si vous voulez rejoindre
le
groupe d'acteurs, groupe collaboratif, citoyen indépendant Terre Bleue, le site c'est terrebleue.org, terrebleue.org aussi pour la page Facebook. Plein de courage à vous, Hélène.
Merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
On oublie parfois que les cadres subissent le même sort que les autres salariés, peuvent passer par la case chômage. C'est ainsi qu'est née en 84 l'association AVARAP, Association pour la valorisation des relations avec les professionnels. Elle est le fruit d'une réflexion menée par une quinzaine de cadres de l'industrie contraints de quitter un secteur en crise. 4 ans plus tard, l'association formalisa une première méthode de programme d'aide et de formation et constitua un réseau d'animateurs de groupe appelé parrain ou marraine. Et depuis 2015, elle est reconnue d'utilité publique. Elle dispose de 7 implantations, dont 3 en région sud, Marseille, Cannes et Toulon dans le Var. Les autres sont à Gradignan, en Gironde, Vigneux de Bretagne, en Loire-Atlantique, Lyon et Paris. Et depuis 1984, elle aura aidé plus de 13 000 cadres à retrouver un emploi ou à changer de carrière. Si vous voulez connaître la méthode utilisée, je vous conseille d'aller sur le site. Ce sont des ateliers d'exercice de travail qui durent en moyenne 7 à 8 mois et toujours animés par un parrain ou une marraine. Généralement, il s'agit de cadres qui sont passés aussi par l'AVARAP. AVARAP.asso.fr pour l'adresse. Alexandra Périgaud, bonjour.
Bonjour.
Alexandra, vous êtes membre et cofondatrice, enfin une des fondatrices, parce qu'apparemment vous étiez nombreux ou nombreuses, du Vidéographe fondé en 2013 à Barjol. Vidéographe diffusait et créait des œuvres audiovisuelles à des fins informatives, éducatives et divertissantes pour favoriser le débat. Et vous êtes allé plus loin d'après ce que j'ai compris maintenant.
Oui, parce que depuis le départ, en fait, on cherche à favoriser la création collective.
Mmh.
On part du principe que c'est mieux de faire avec les habitants plutôt que uniquement pour. Dès le départ, en fait, de la fondation de l'association, on a essayé d'impulser comme ça du faire ensemble. Et puis désormais, on est parti sur un projet de web-série qu'on veut réaliser avec les habitants. Donc c'est un projet long avec un calendrier très élastique.
Oui. Oui, parce que depuis donc septembre, vous avez commencé par des ateliers hebdomadaires d'écriture, donc on peut devenir scénariste.
On peut devenir scénariste, oui. Alors, de septembre 2016 à mars 2017, nous avons animé des ateliers d'écriture de scénarios. Au départ, on avait fait un appel assez modeste, pensant que, en fait, le projet marcherait si les scénaristes étaient compris entre 5 et 10 personnes.
Oui.
Or, ça a eu un succès fou et on s'est retrouvé dès le départ à 23 scénaristes,
oui,
entre 13 et 80 ans.
Oui, mais comment vous avez réussi à convaincre ce public? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire et suivre toutes les semaines un atelier. Au bout d'un moment, ça peut devenir lassant ou on ne va pas tenir le rythme.
Nous, on se dit que peut-être que les gens ont besoin de créer et d'imaginer ensemble, de partir sur du non concret. Le fait est que d'être en plus en milieu rural, souvent il y a des vides à combler, notamment au niveau de la création, et Barjol manque de tout ce genre de choses.
Oui, oui. Donc après les ateliers d'écriture, il y a eu alors un appel, enfin des appels même à participation et découpage technique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
On a fait des appels à participation parce qu'on devait former une équipe technique.
Oui.
Nous, le vidéographe, on se charge de former à l'image et au son des volontaires. Souvent, ils ont fait partie des scénaristes ou ils auraient voulu faire partie des scénaristes. Donc, ce sont des gens qu'on a réussi à motiver parce qu'ils étaient déjà plus ou moins engagés avec nous. On a fait de même pour les accessoiristes et tout ce qui est décor. Donc ça, ce sont des gens du village, notamment des associations qui travaillent avec nous, comme la fabrique en art plastique, qui sont implantées à Barjol, qui prennent le relais aussi pour les décors. D'autres adhérents du vidéographe qui se sont mis plus comme accessoiristes parce que pas à l'aise derrière les caméras.
Oui.
Et puis on continue de mobiliser des habitants qu'on ne connaît pas. Donc on a démarré à 4, puis à 30 avec les scénaristes. Et là, nous sommes désormais environ 80 à tourner autour du projet.
Ouais, pas mal. Alors, la troisième phase, c'était le casting à Barjol au mois de décembre. Et puis, la quatrième étape, la préparation des comédiens.
Alors là, nous avons fait appel au Théâtre du Lézard, notamment à Richard Frech, qui est metteur en scène, qui lui anime chaque mercredi soir 2 heures très intenses d'atelier parce qu'ils sont plus de 32 comédiens sur scène. Il n'y a que des amateurs, la plupart des gens n'ont jamais fait de théâtre. C'est vraiment de se faire confiance et puis ils commencent comme ça à impulser quelques astuces, voilà.
Mais la série, tiens, de la comédie réaliste, plus du récit, plus du vécu des habitants, de sujets graves ou de sujets moins sérieux, comment vous allez tenir cette série ?
La série, c'est un savant mélange d'absurdité et de poésie. Parce que écrire à 23, ça a été quand même laborieux. Alors, c'était des ateliers haut en couleur, parce que entre ceux qui avaient 13, 14, 15 ans et les plus anciens, entre 70 et 80 ans, il fallait toujours se mettre d'accord. Donc, c'est un savant mélange d'idées de tous. C'est vraiment une histoire assez proche de la réalité, mais avec beaucoup de poésie, puis un peu de surréalisme quand même.
Ouais. Et elle sera visible à partir de quand ?
Elle sera visible, si tout va bien, fin 2018.
Et elle aura un nom ?
Elle aura un nom qu'on n'a toujours pas trouvé.
Ah, bah tiens, si on lance un appel, chers amis, si vous voulez donner un nom à la web-série qui va bientôt être tournée à Barjol avec le vidéographe, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un site, c'est levideographe.com, il y a la page Facebook levideographe.barjol. Vous pouvez trouver le contact à partir de ce moment-là ou nous soumettre directement, puis on renverra à Alexandra vos propositions de titres de cette web-série. On fait comme ça ?
On fait comme ça.
Eh ben ça marche. Merci Alexandra.
Ben, de rien. À bientôt. Merci beaucoup.
Je fais ma petite relance habituelle. Au mois d'avril, nous traverserons les départements de Dordogne, d'Aude, de l'Aude, de l'Ariège et de Haute-Garonne. N'hésitez pas à nous écrire, on reste dans le Var. Roque Brune sur Argent, Nicolas Soufflet, le jeu des 1000 euros.